liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, la semaine 24, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, notre sommaire.
On a 7 articles cette semaine. Une semaine assez tranquille, finalement. Donc, on va vous parler de Mozilla et de ses nouveaux locaux, la NSA. C'est un gros sujet. Les achats patriotiques, Berlin et le logiciel libre. Comment aider le logiciel libre? Un sujet qu'on a déjà vu, mais ça fait pas de mal. L'école, bien sûr. Et finalement, une discussion sur le cloud et autres sujets afférents.
ZDNet.fr, Fleur Pellerin chez Mozilla, le logiciel libre, garant de la souveraineté numérique. Un article de Thierry Noisette.
Donc ça, c'était la grosse fête la semaine dernière. Un beau pince-fesse.
La fondation Mozilla qui a inauguré ses nouveaux locaux à Paris.
Donc Mozilla, ce sont eux qui font Firefox. Hein,
Firefox, ouais. Entre autres, Thunderbird et plein d'autres choses.
Ah, Thunderbird, ils ont arrêté, mais...
Firefox, c'est pas mal.
Et Firefox OS.
Exactement.
Ouais, Fleur Pellerin était présente lors de cette inauguration et a fait un discours assez libriste, très orienté libre.
Il y a même une vidéo, vous pourrez regarder, je crois que c'est la vidéo de son discours, mais je ne l'ai pas encore ouvert.
Oui, bah on n'y est pas allé, on était invité, mais on était un peu coincé par autre chose. Donc on a raté le pince-fesse et le discours de la ministre.
Et Dieu sait qu'il y avait du beau monde, parce qu'il y avait aussi Mitchell Baker. Hein.
Oui, donc Mitchell Baker qui est président de la Fondation Mozilla. Elle n'est pas dans la partie exécutive entreprise, puisque Mozilla est quand même géré vraiment comme une entreprise, mais plus sur la partie justement libre, idéale, etc. C'est une juriste à la base, et elle est dans le projet depuis le début. Hein. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps.
Une grosse pointure, tout comme Tristan Ito, Frédéric Couchet, qu'on apprécie, Gisèle, Benjamin Bayard.
Ceux-là ne sont pas vraiment cités dans l'article. Il y a par contre les structures, hein. On parle de l'April, de la Quadrature et de FDN. Donc voilà, bon, les locaux pètent pas mal parce que c'est classé, c'est des locaux avec une hauteur...
Mais
ils n'ont pas le droit de faire un seul trou dans les murs, ce qui explique qu'ils ont eu ces locaux pour pas trop cher, parce qu'il y a quand même des contraintes très importantes.
Donc bah, bravo pour eux, parce que ça leur permettra d'héberger une trentaine de développeurs, ce qui est pas rien.
Plus parce que l'article dit qu'ils en ont 30, une trentaine pour l'instant, et il y a encore pas mal de place, donc ça laisse la possibilité, en tout cas la perspective, d'avoir beaucoup plus de monde.
C'est pas mal. Bref, j'attends avec impatience d'aller jeter un œil, parce qu'après tout, on connaît du monde dans ces milieux-là, et on ira les interviewer.
Numérama, la NSA profiterait des failles de sécurité avant leur divulgation aux clients, un article de Julien L.
La NSA.
C'est l'agence de renseignement américain.
Alors c'est No Such Encore. Agency, il me semble.
Peut-être National Security Agency. Bon, on en a déjà entendu parler il y a quelque temps avec le contrat Open Bar, où on pensait déjà qu'il y avait des failles, des backdoors qui étaient placés pour faciliter les accès à la NSA dans les systèmes d'information de certains États.
Donc comme le ministère de la Défense français.
Par exemple. Et là, en fait, il y a un nouveau lièvre qui a été soulevé, c'est qu'apparemment la NSA profiterait de la divulgation des failles de sécurité avant tout le monde, soi-disant pour protéger le système d'information américain avant les autres. Mais en fait, ils pourraient aussi s'en servir pour pirater, pour s'introduire chez les autres et voir essayer de sortir des données ou des choses comme ça.
Comme c'est bizarre. Hein.
Donc ça fait suite aux révélations lancées par Snowden, je crois, qui est donc un ancien employé de la NSA américain et qui a sorti des informations, parce qu'il y a des programmes de surveillance.
Le mot-clé, c'est Prism, il me semble.
Prism, tout à fait. Donc ça fait grand bruit depuis une semaine. Alors c'est pas directement lié à notre sujet logiciel libre, quoique, puisque si on veut se mettre à l'abri de tout ça et contrôler son informatique, on a besoin de logiciels dont on contrôle le code source. L'histoire de l'accord Open Bar le montre bien. Si on sait pas ce qu'il y a dans le code source, on sait pas ce que fait le logiciel.
C'est la conclusion de l'article qu'on apprécie pour ça.
Donc restez branchés là-dessus, hein, cette histoire, on n'a pas fini d'entendre parler. Journal du net, achat patriotique, si on passait à la pratique, par Alexandre Zapolski. Donc c'est une tribune, plus qu'un article.
Oui, mais c'est une tribune que j'ai bien aimée, parce que ça enfonce des clous sur un logiciel en particulier, un appel d'offres en particulier, qu'on a raté dans le monde du logiciel libre.
Donc là, c'était donc Grenater, en fait, qui est un groupe d'intérêt, qui rassemble toutes les universités, tout ce qui est recherche en France. Ils ont eu besoin de renouveler leur parc informatique, en tout cas le logiciel sur la partie messagerie, et ils sont partis chez un énorme logiciel propriétaire, privateur. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, apparemment. Ça a été fait un peu encore en cachette, dans un coin, décidé par un conseil d'administration un peu obscur. Et bah, les entreprises, là, c'est un peu une lettre, c'est une lettre ouverte à nos membres en demandant, bah, en disant, vous avez demandé à ce qu'on achète français, à ce qu'on fasse français. Et puis là, bah, à chaque fois qu'on a un appel d'offres dans le marché de l'informatique, bah, ça part à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, pensez à nous et, voilà, et puis, bah, faites bouger les choses, quoi.
Il le met en demeure de joindre la pratique à la parole. Donc, il faut rappeler que Alexandre Zapolsky est le patron de l'Inagora.
Oui, donc c'est pas rien dans le marché, justement, français.
Et dans le marché public, puisque l'Inagora a pas mal investi ce marché-là. Donc, bon, voilà. En tout cas, ce qu'il dit est tout à fait justifié et intéressant. Cette question, voilà, du patriotisme économique, et on parle beaucoup aussi ces temps-ci d'évasion fiscale, tout ça. Là, il y a vraiment des choses qui se passent de ce côté-là. C'est en train de faire réfléchir.
Oui, je rajouterais, c'est en écho à ce que disait Fleur Pellerin, c'est bien d'aimer, mais l'important, c'est les preuves d'amour. Et donc, à un moment, ben voilà, ça, c'est une preuve de désamour de l'administration, des institutions. C'est un acte manqué ou un acte raté. C'est dommage.
Le monde informatique, la ville de Berlin rejette encore le passage à l'open source, un article de Jean Elian.
Donc c'est là aussi un peu en écho avec ce qui s'est passé notamment à Munich, et ils en parlent dans l'article, mais là c'est encore plus gros, c'est important symboliquement, c'est la capitale de l'Allemagne, et ben, on a raté encore un truc.
Ouais, et c'est la deuxième fois en plus à Berlin, la proposition de loi avait déjà été faite il y a quelques années, donc c'est les Verts qui est l'opposition là-bas qui avait proposé ça, de migrer 25% du parc informatique de Berlin à l'open source.
Donc ce qui fait quand même quelque chose, donc il y a 68 000 postes sur la ville, donc c'est pas rien.
Et puis bah, ça a été refusé, donc ils ont préféré mettre l'accent, on parle de standardisation, donc tout ce qui est la partie format ouvert, et le cloud gouvernemental. Ça rappelle des choses en France, mais...
Bon, l'article dit aussi que bah, c'est pas très spécifique et qu'on voit pas exactement où ils veulent en revenir. En tout cas, donc, c'est un truc qui a été tenté et qui a été raté. Donc en Allemagne, il y a eu donc Munich qui a réussi le truc et qui affirme économiser 11 millions d'euros, je suppose, par an. Une autre ville dont on avait parlé il y a fort longtemps,
c'était Fribourg.
Fribourg, voilà, qui avait fait par contre marche arrière. Donc ce qui montre que passer au logiciel libre, c'est pas simple. C'est des organisations importantes comme ça. C'est pas un machin qu'on fait en claquement de doigts, c'est un vrai projet. Il faut se donner les moyens de le faire et bah, ça vaut le coup. Mais c'est pas un machin trivial non plus. Framablog, comment aider le logiciel libre quand on ne sait pas coder? Un article de Duncan McKean, donc traduit par le Framablog.
Donc c'est un sujet qu'on a déjà vu pas mal de fois, mais c'est quand même intéressant de revoir.
Pas tant que ça, mais pour moi il n'est pas abordé sous cette forme-là ouais. Si souvent que ça. Et voilà, donc le logiciel libre, on sait, c'est le code, etc. Donc code libre et ouvert, et donc les informaticiens peuvent s'en saisir, mais... Que faire comme moi, on n'est pas informaticien, eh bien on peut contribuer malgré tout.
Donc alors, qu'est-ce qu'il propose justement pour contribuer?
Bah en fait, on peut faire énormément de choses. Un logiciel libre, c'est pas que du code. Bon déjà, la chose principale qu'on peut faire, c'est utiliser le logiciel. Hein. Le fait de l'utiliser, ça fait déjà une promotion. Enfin, ça montre qu'il y a des utilisateurs derrière. Ça peut vraiment, vraiment aider les différentes communautés à se faire connaître. Il y a toute la partie gestion des bugs. Comment déclarer un bug? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Enfin, reporter les problèmes qu'on a en utilisant les logiciels. Donc, il y a toute la partie écriture de documentation, rédiger les manuels, faire les traductions aussi de sites internet ou des documentations. Aussi, les compétences qui sont techniques, mais pas uniquement code. Donc ça va être les images, le design, la sonorisation, et puis après il y a toute la partie communication à l'extérieur, donc avec faire l'évangéliste vers par exemple dans des organisations auprès du gouvernement ou des dons, ou puis aussi faire preuve de professionnalisme.
Mais ça c'est le conseil général, ouais, où on reproche aux communautés de faire des trucs un peu amateurs, et donc son conseil dit faites propre, faites pro.
Donc a priori des bonnes choses, allez jeter un œil, hein. Honnêtement, le libre ça paraît un peu touffu, un peu geek, un peu poilu, mais non, il y a plein de choses, c'est intéressant.
Journal du Net, loi sur l'école et le logiciel libre, un lobbying intense, qui parle au nom des entreprises du libre, par Patrice Bertrand.
Donc encore une tribune.
Et oui, et d'un chef d'entreprise des entreprises du libre.
Mais qui représente aussi CNLL.
Donc qui est une association d'entreprises qui font du libre. Et ben là, c'est autre coup de gueule sur un autre sujet, qui est cet amendement qui avait été proposé sur la loi éducation pour mettre le logiciel libre comme prioritaire dans l'éducation, machin qui a été sabré par le gouvernement, sous la pression de l'AFDEL, dont on sait que Microsoft pèse assez lourd dans ce machin, et qui est une association d'entreprises qui font du propriétaire, mais également de Syntec, qui se veut le représentant de toutes les entreprises du numérique.
Et là, on sent un peu le coup de traître parce que personne n'a été consulté. Le Syntec se revendique comme représentant aussi des entreprises qui font du logiciel libre.
6% des entreprises sont dans le libre. Et c'est ce que fait remarquer Patrice Bertrand en disant si la Syntec, au nom de toutes les entreprises, y compris les 6%, même si ces 6% sont minoritaires, elle n'a pas à s'amouer le truc et à dire au nom des entreprises du libre, je suis contre cet amendement. car on s'en doute, les entreprises libres, elles étaient plutôt pour.
Et puis surtout, enfin, le problème, c'est que la Syntec a vraiment été assez loin, puisqu'ils ont envoyé une lettre ouverte au gouvernement pour demander le retrait, enfin, en tout cas la correction de cet article de loi. Ils se sont vraiment exprimés au nom des sociétés des SS2L, et apparemment qui n'ont pas du tout été consultés, donc ils ont découvert ça presque après le vote.
Petit détail, c'est Zapolsky, dont on a parlé un peu avant, qui dirige le groupe au sein du Syntec, qui est responsable du logiciel libre. Et il le dit, c'est remonté dans l'article, il n'a jamais été consulté à ce propos-là. On a vraiment laissé toute cette portion, ces 6%, de côté.
Ouais, et en plus, le double effet qui se coule de la lettre de la Syntec, c'est que la Syntec se sert des arguments du libre pour retourner tout ça, une espèce de semoule infecte avec tout ça, pour essayer de retourner les neurones de nos gouvernements et demander le retrait de cet article de loi.
En conclusion, Patrice Bertrand lui fait la promotion du CNLL en disant voilà, on est des entreprises du libre, on se fait poignarder au sein du Syntec, donc ça justifie notre existence et l'importance qu'on soit là. Oui, je pense qu'il a tout à fait raison de faire la promotion de son truc.
Petit détail, a priori, ça a été voté en l'état, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de priorité au logiciel libre, et j'ai cru comprendre que là, c'était fait maintenant.
C'est mort de chez mort. Bon, on espérait la semaine dernière que le coup soit rattrapable, mais...
Oui, sur la deuxième lecture.
Oui, bon, voilà. Mais ça a eu l'avantage de faire beaucoup de bruit, donc ce qui montre que les choses bougent, et que même si les décisions ne sont pas là, c'est valable sur le truc Zapolsky tout à l'heure, ça fait du bruit, ils prennent des positions de principe comme la circulaire Aero et d'autres, c'est pas suivi dans les actes, et la sanction tombe, et mine de rien, c'est le genre de choses qui permettent d'avancer petit à petit.
Et ça fait sortir aussi le problème des lobbies, et là en plus, entre guillemets, de lobbies qui se tapent dessus en montrant bien qu'il y en a qui parlent pour la place d'autres. Je pense que ça peut aussi donner pas mal de réflexions pour les prochains articles de loi.
Silicone.fr, quel est l'intérêt des architectures cloud ouvertes? Un article de Yves Grandmontagne.
Alors, c'est même plus une suite d'articles, parce qu'en fait, il y a un petit bouton suivant tout à la fin, et ça va assez loin, il y a pas mal de choses.
Donc c'est un article, qui essaye de faire le point sur qu'est-ce qu'on a comme avantage à utiliser un cloud ouvert, un cloud libre. Donc là, en l'occurrence, c'est OpenStack. Donc on connaît bien ça à l'April, puisque c'est quelque chose qu'on utilise.
Ouais, et puis on en a parlé dans la revue de presse plusieurs fois déjà.
On en parle pas mal. Et donc, ils essayent de faire le point de quel avantage de OpenStack par rapport à d'autres solutions. Donc essentiellement, c'est un peu toujours les mêmes choses que dans le libre. C'est d'essayer de se sortir de l'enfermement technologique, d'avoir une longueur d'avance aussi par rapport aux solutions propriétaires. Et de se mettre en avant, la France est aussi bien calée là-dessus, donc faut y aller, quoi.
Donc moi je dirais que c'est un article et une suite d'articles assez poilus quand même, ça parle aussi de réseaux sociaux, d'entreprises, mais si vous êtes un petit peu dans ce domaine-là, que vous voulez approfondir, allez jeter un œil, mais c'est vrai que bon, c'est quand même assez costaud.
Très bien, et merci à vous deux, on a fait le tour, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ouais, salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposé par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence numérique tous les jeudis à 12h30 et 17h30.